Question franche sans langue de bois. Question franche sans langue de bois.
Tout à fait, les questions sont franches et évidemment, comme vous l'a dit, le petit jingle là, c'est franchement sans langue de bois. Alors ce matin, dans sans langue de bois, nous recevons monsieur André Lionel Da Silva, ou Lionel André Da Silva, ça dépend, qui est président de l'ONG Les Amis de la Vie. Bonjour monsieur, bienvenue.
Bonjour Tolman, salut à l'AF Radio, précisément... c'est live du matin, c'est ça?
Exactement, le live matin.
Live matin. Alors, je suis content d'être là.
Voilà. Et en tout cas, c'est partagé. On est aussi très, très content de vous recevoir, justement. Et nous allons donc parler des sinistrés, des inondations. Quel est donc l'apport des ONG dans l'accompagnement de l'action de l'État? En même temps, on peut scinder pour dire, c'est vrai qu'il y a l'accompagnement de l'action de l'État, mais il y a aussi un accompagnement qui peut être considéré comme une initiative privée. Aujourd'hui, on sent un certain mutisme, justement, de la part des ONG. Cela est dû à quoi?
Un mutisme. Il faut d'abord pouvoir faire le tour de ce qui est fait sur le terrain, et parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui travaillent quand même dans la discrétion, sans faire de tapage, comprenez. Et puis, il faut savoir que les pluies diluviennes, ce n'est pas encore fini.
Bien sûr.
Et il n'y a pas en fait de beaucoup d'ONG qui travaillent dans le cadre de l'urgence humanitaire, vous comprenez, donc ils travaillent pour pallier les catastrophes, vous comprenez. On n'a pas de personnes rodées à aller généralement sur des terrains de sinistre, donc ce qui fait que les choses se font après coup, et pour pouvoir budgétiser, financer, élaborer des opérations, ça prend du temps. Donc je suppose que beaucoup d'ONG sont actuellement en train de se préparer, même si on ne voit pas de façon médiatisée des choses significatives. Mais véritablement, ça, tu touches un point qui est lacunaire de notre société ivoirienne, c'est cela, parce que la Côte d'Ivoire quand même, c'est pas n'importe quel pays, et devrait normalement avoir des personnes qui opèrent en urgence lorsque on sait que, parce que il faut savoir qu'on était prévenu de ce qu'on rentrait dans des
périodes dans une saison pluvieuse
et de pluie
diluvienne précisément.
Voilà, c'est les fortes précipitations. Il faut savoir que c'est quoi, c'est 16 litres d'eau en une heure au mètre carré, ça fait beaucoup.
C'est ça.
Donc on devrait quand même pouvoir essayer de juguler les efforts faits par l'État de Côte d'Ivoire.
C'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas sur le terrain, le théâtre des opérations se bat comme il peut. Tout récemment, le Premier ministre Patrick Hachi a convoqué les maires des districts pour les appeler, sinon les amener à contribution. L'ONG a...
Bon, moi je ne sais pas pourquoi chaque fois qu'on parle de l'État... La population se sent en marge. Non, nous sommes dans, quand on parle
mais justement,
de l'État.
Ouais, oui, l'État, c'est chacun.
Il y a des mesures gouvernementales, mais il y a aussi les sociétés, les composantes de la société civile, qui sont organisées. Vous comprenez, lorsque dans un quartier, il y a un sinistre, on ne va pas attendre forcément les pompiers. Il faut que, de façon communautaire, il y ait déjà une organisation. Et je veux dire que c'est autant d'actions que nous, amis de la vie, qui agissons beaucoup sur les mentalités et essayons d'induire au niveau des populations.
Pour rester justement sur l'ami de la vie, c'est vrai que une ONG, elle se décline en deux postures. Il y a les ONG qui ont des spécialités humanitaires, et il y a les ONG qui ont des spécialités de plaidoyer. Votre ONG, exactement, est-ce qu'elle englobe ces deux entités là, ou elle est particulièrement seulement dans l'humanitaire ou seulement dans le plaidoyer?
Bon, dans le cadre défini, clairement, on peut être dans le cadre humanitaire.
Okay.
Parce que le plaidoyer, c'est un peu comme les Human Rights Watch,
tout ça.
Vous comprenez, ils font seulement du conseil, beaucoup de lobbying. Voilà, nous sommes plus dans la pratique, donc véritablement des ONG humanitaires, mais sur des questions vitales, donc qui nous donnent le droit aussi de pouvoir indexer même les Nations Unies sur des questions de vie. Vous comprenez, et cela, lorsque, par exemple, sur certaines actions, au niveau des OMD, on veut circonscrire les choses simplement à des aspects économiques, nous disons non. Voilà, il y a aussi les aspects vitaux, il y a des aspects qui concernent directement la vie des populations, et vous voyez que depuis quelques années, on commence à intégrer la notion de bien-être, vous comprenez, à tout ce qui est développement durable. Voilà, donc c'est des questions comme ça qui sont à mener, et on a besoin de toutes les composantes de la population,
de la société.
Parce que chacun réfléchit, hein, nous sommes généralement dans des pays démocratiques, donc chacun a le droit de pouvoir parler et puis de pouvoir se positionner aussi de manière à pouvoir soir être en bénéfice à sa communauté.
Nous avons globalisé évidemment la question, mais puisque vous êtes là, vous êtes une ONG, on va essayer de particulariser la chose. Vous, aujourd'hui, en tant qu'ami de la vie, quelle est concrètement votre action sur le terrain?
Eh ben, déjà, puisque c'est le cas des pluies diluviennes qui nous rassemblent ici, hein, donc ce sont des phénomènes que nous connaissons bien en tant qu'amis de la vie. Nous avons déjà eu à réagir et nous sommes en train de nous préparer, bien sûr, pour réagir à ce contexte-là, comme je dis encore, qui n'est pas terminé. Nous sommes encore dans le contexte des pluies diluviennes. Donc, nous avons, il y a des zones à risque. Hein, qui se sont étendus aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vu la revalorisation des terrains, toutes les zones maintenant tendent à devenir habitables. Voyez, et ça multiplie les conditions et les dispositions à devenir des zones sinistrées par rapport aux pluies du. Donc nous sommes déjà intervenus dans des quartiers comme le quartier de Danga qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait compté des morts à l'issue de certaines pluies diluviennes il y a quelques années, et c'est un quartier que nous avons investi pour y travailler, pour pouvoir assister toutes les couches sociales là-bas. Je veux dire qu'il y avait des enfants était en difficulté, il y avait des familles dont les murs étaient tombés, il y avait des gérantes, c'est-à-dire des personnes du troisième âge, vous comprenez, qui n'arrivaient plus à subvenir à juste la pitance quotidienne, qui était vraiment malnutrie, c'était malade. Donc c'est à tous ces étages de la population que nous avons assisté avec des dons, avec aussi un soutien. Parce que derrière les populations désœuvrées, il y a quelquefois un état mental. Il fallait encourager les jeunes à reprendre les cours. Il fallait encourager les femmes à entreprendre. Donc, je veux dire que derrière les actions d'urgence, il y a aussi les actions sociales d'accompagnement. Et c'est ce que nous avons fait dans les quartiers comme Cocody Danga, dans les quartiers qui n'existent plus aussi comme... derrière ancien Orca, c'est-à-dire Rivière 9 kilos, qui était aussi un quartier précaire, mais qui était quand même organisé.
Mais pourquoi vous partez pas à mon cyclo? Puisque à chaque fois quand vous visitez un quartier précaire, là, ça disparaît après.
Non, mais il faut dire que l'État travaille. Comme je vous dis, il y a des zones qui ont été identifiées comme des zones à risque. Il y a déjà eu des morts. Vous comprenez? Et c'est pas réalisant pour l'État de Côte d'Ivoire de venir à chaque fois dire que lui, il y a eu tel mort. Donc, on va procéder à des déguerpissements. Vous comprenez? À pouvoir redisposer les populations autre part. Donc, quand ces actions, nous venons en urgence, mais derrière, l'État aussi qui travaille à la préservation de la vie, qui va procéder au déguerpissement de ces populations vers des sites moins à risque.
D'accord. Avant que je donne la parole et à Armel Mendy et à Lim Begré, c'est vrai que Lionel Da Silva, vous disiez, nous avons posé le problème pour dire, tiens, accompagnement de l'action de l'État, mais vous dites non, pas accompagnement de l'action de l'État, mais plutôt initiative personnelle, initiative privée.
Ah non. C'est l'État qui définit les axes.
Ok.
Voilà, nous sommes sur le terrain, mais bien sûr, nous avons des ministères de tutelle. Toutes les ONG sont conduites par leur ministère de tutelle. Donc oui, je veux dire qu'il ne faut pas attendre forcément l'État pour pouvoir réagir. Je veux que déjà, au niveau de nos communautés, on peut avoir déjà des mécanismes qui nous amènent à intervenir. Quand on parle de solidarité, la solidarité, c'est quoi? C'est le lien collectif d'assistance mutuelle. Est-ce que la solidarité existe entre les Ivoiriens déjà à la base? Vous comprenez? S'il y a quelque chose, une catastrophe dans mon quartier, je ne vais pas attendre forcément la ministre de la solidarité. Ce sont des voisins, on peut déjà s'organiser et puis venir en assistance à une famille. Donc je veux dire que ce lien de solidarité, il doit exister dans le cœur des Ivoiriens déjà. Et nous travaillons en tant
Donc vous comprenez quand l'État de Côte d'Ivoire dit tiens, on vit justement ces pluies diluviennes qui causent tellement de dégâts qu'il appelle à la solidarité. Vous comprenez que l'État appelle à la solidarité, vous?
Mais c'est tout à fait normal parce que la solidarité c'est une trace du développement. Vous comprenez, il faut regarder les structures, les sociétés les plus solidaires, même en Côte d'Ivoire, sont les sociétés, les communautés qui se développent le mieux. Voilà, on ne peut pas se développer sans la solidarité. Vous comprenez, et c'est cela. Je veux dire que donc s'il y a le feu chez moi, je vais attendre l'assistance et le concours de mes voisins d'abord avant de pouvoir attendre les pompiers de l'indigné. Voilà, donc je veux dire que c'est quelque chose qui qui doit être encouragé déjà à la base.
Okay.
Vous comprenez, déjà dans nos communautés, on doit avoir des mécanismes de solidarité, vous comprenez. Et puis bien sûr, les ONG aussi, qui doivent se développer dans le sens de l'urgence humanitaire. Tout ça pour pouvoir pallier ces différentes catastrophes. Enfin, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, aujourd'hui. Quand vous regardez la cartographie des zones à risque, avant c'était bien sûr circonscrit à la périphérie d'Abidjan, dans des bas-fonds, mais aujourd'hui on a des quartiers bien situés qui vivent des catastrophes. Ouais. Vous comprenez?
Riviera Fayalouyelu, par exemple.
Tout à fait, les bidonvilles de luxe. Tout à fait.
Les bidonvilles de luxe.
Oh là. Est-ce qu'on va attendre toujours de pouvoir être les pompiers après la mort? Non. Je veux dire qu'il y a aussi des choses qui doivent être absorbées par la sensibilisation. Parce que je veux dire que les pluies diluviennes, on sait aujourd'hui, quand on regarde les rapports météorologiques, vous comprenez, on peut les prévenir. Il y a une sensibilisation à faire, il y a des mesures à prendre. Je veux dire, avant les pluies diluviennes, déjà dans des quartiers. Donc on peut s'organiser déjà à pouvoir mettre en place certaines digues. On ne va pas attendre forcément les caterpillars du ministère de la Construction.
C'est une question de responsabilité.
C'est une responsabilité citoyenne déjà. Et je veux appeler, parce que je suis là en tant qu'ONG, l'ONG c'est pas seulement distribuer du riz, vous comprenez, et ça nous l'avons bien compris au niveau des Amis de la Vie, parce que nous travaillons à pouvoir mettre ces automatismes là au niveau de la population. Quelquefois on va prétexter qu'on n'a pas les moyens, voilà, donc on n'a pas les moyens, nous on est pauvres, nous on est ceci, donc on attend forcément l'État. Non, on peut pas être attentiste. Faut que ce soit déjà au niveau des quartiers, au niveau des cellules des quartiers, au niveau des communautés, on puisse s'organiser pour faire face à ce genre de catastrophe.
Alors,
quelque chose de général.
Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un bilan provisoire de vos actions pour cette année?
De cette année?
Oui, puisqu'on est déjà, on est dans la période, nous sommes dans la saison pluvieuse. Les différentes actions que vous avez pu mener avant et maintenant.
Bon, moi, je peux répondre très, très aisément à ça. Sauf que ça me fait un peu coq-à-l'âne, mais je peux répondre très aisément à ça. Il faut savoir que je suis à l'aise pour répondre à ce genre de questions parce que les Amis de la Vie sont les leaders dans l'événement social en Côte d'Ivoire.
OK.
Voilà, donc pour pouvoir induire, pour pouvoir rendre populaire certaines décisions ou bien une certaine mécanique gouvernementale impopulaire, il faut un contact avec les populations. Et nous allons au contact des populations. Nous avons énormément de mécanismes populaires. Nous étions dans la région de Bingerville où pendant un mois durant, nous avons travaillé sur les populations au niveau de la santé.
D'accord.
Vous comprenez? Donc, apport de médicaments, apport de soins, mais aussi beaucoup de sensibilisation, parce que généralement, quand on est dans des zones périphériques, on rechigne à aller à l'hôpital. On attend quand c'est grave. Vous comprenez? Quand on arrive à l'hôpital, on se retrouve, on nous prescrive soit de l'aspirine, soit de quelque chose. C'est maintenant, on est confronté à des opérations qui coûtent plus cher. Vous comprenez? Aussi, travailler au niveau de la santé générale, parce que l'OMS maintenant définit tout système de santé, toutes les actions qui vont amener une population à se maintenir en bonne santé. Et ça, c'est avec le concours, bien sûr, non seulement des efforts nationaux, mais aussi des ONG et de tous les systèmes de santé mis en place. Donc, comment maintenir les populations en santé? Bien sûr, avec la pratique régulière du sport. Mais aujourd'hui, quand on parle de pratique régulière du sport, c'est un peu circonscrit, c'est un peu des connotations onéreux. Voilà, parce que quelqu'un qui fait une pratique, qui va en salle et tout, voilà, avec les coûts de la vie qui sont chers aujourd'hui. Donc, il y a des populations qui se sentent en retrait. Voilà, mais comment les inclure? Comment, pour la vendeuse d'Aloco, la femme qui va à checker, comment lui inculquer qu'elle doit faire le sport pour entretenir sa santé? Vous comprenez? C'est un vrai challenge, hein, parce que la dame, elle est adossée à des activités pour lui rapporter une puissance journalière. Quand tu lui dis, mais viens faire du sport, elle va dire, mais qui va s'occuper de nourrir mes enfants? Donc, il y a des questions comme ça qui sont amenées, et c'est qu'au contact des populations qu'on peut en être confronté.
Parfait. Merci, président. Bon, en tout cas, là, c'est la première partie, sans langue de bois. Nous allons marquer une petite pause derrière. On aborde maintenant la deuxième partie. Et si on en parlait, et là, donc, les auditeurs sont appelés encore à contribution, à nous appeler et dire leurs avis et commentaires au 27 225 49 880 sur justement l'apport des ONG dans l'action de l'État en ce qui concerne les sinistrés des pluies diluviennes ici même à Abidjan et dans ces banlieues, dans ces périphéries, pourquoi pas.
Question franche sans langue de bois. Question franche sans langue de bois.
Life Radio 107.7. La radio comme tu l'entends.